Bonjour Didier. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire aussi quelques mots sur tes sujets de recherche et comment tu es arrivé à travailler sur ces questions-là?
Donc, moi, présentement, je suis professeur titulaire d'une chaire de leadership en pédagogie de l'enseignement supérieur à l'Université Laval à Québec, au Canada, dans cette belle province. Je travaille plus particulièrement sur la question de l'expérience d'enseignement et d'apprentissage et comment, dans un contexte qui est en évolution, accompagner d'évolution et dans une perspective améliorative de cette expérience, à la fois pour l'enseignant et à la fois pour l'apprenant. Et depuis fort longtemps, c'est-à-dire depuis 4 décennies, je m'intéresse à la question des espaces. À la question des espaces comme, un objet qui participe aussi de l'expérience, qui, par les affordances, qui par un certain nombre de caractéristiques, forge une expérience et contient également cette expérience.
Et alors, dans vos travaux, vous travaillez entre autres la distinction entre espace spatial, espace physique, espace virtuel, mais aussi espace formel et non formel. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut qu'on ait en tête, d'autres éléments primordiaux qui nous permettront de bien saisir cette notion de l'espace d'apprentissage?
Merci pour cette question qui amène plusieurs développements. Le premier développement, c'est le suivant, c'est la distinction qui me semble intéressante, peut-être opportune à faire entre la notion de lieu, là où l'on se situe. Présentement, nous sommes dans un lieu. Ce lieu qui fait partie d'un espace, c'est-à-dire un espace, c'est une aire au sein de laquelle on se déplace dans un espace-temps pour des fonctions définies, et ces espaces qui participent de l'édification d'un territoire. Ces trois niveaux nous permettent de comprendre, entre autres, que dans un même lieu, qui se situe dans un espace, on peut élargir, augmenter en quelque sorte notre expérience par la mobilisation de ce qu'on appelle, parfois un peu rapidement, un espace numérique. Ce qui nous amène aussi à reconsidérer, en quelque sorte, le fait que si chaque activité est ancrée spatialement, à la fois une activité elle est ancrée dans l'espace, dans le temps et dans du social, le fait de mobiliser des objets techniques fait qu'on a une expérience que l'on peut qualifier aujourd'hui, même si c'est un terme en émergence, de phygital, c'est-à-dire qui est construite à la fois dans l'espace physique et qui emprunte également des éléments à l'espace numérique. Ce qui permet aussi d'envisager tout un ensemble de nouvelles possibilités et d'ouvertures dès lors où on observe une déspatialisation des activités. Par exemple, on va trouver dans une offre de formation à distance qui permet de réaliser certaines activités d'enseignement ou d'apprentissage en dehors d'un espace académique.
Et en quoi donc travailler cette phygital permet de faire évoluer les pratiques enseignantes, les pratiques de formation et aussi les pratiques d'apprentissage?
Alors, ça permet d'envisager d'autres possibilités dans la mesure où, acceptant le fait que l'acte d'enseignement et d'apprentissage n'est plus contenu dans un seul et unique lieu physique, qui traditionnellement est un lieu académique au sein d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur, ça offre la possibilité à une diversification des possibles en termes de localisation de l'activité. Cette diversification de localisation va rejoindre, par exemple, des besoins de conciliation entre le travail, la famille, les loisirs, et également dans une perspective où, de plus en plus, nous sommes attachés, au maintien de la planète dans une certaine forme, et bien aussi de se déplacer lorsqu'il y a nécessité à se déplacer. Mais au-delà de ça également, cette déspatialisation permet aussi de vivre d'autres expériences, c'est-à-dire, entre guillemets, de déporter dans d'autres lieux et dans d'autres espaces des expériences, et notamment dans une perspective plus expérientielle où on va pouvoir vivre des activités sur le terrain, pour le dire rapidement, et qui ensuite seront l'objet d'une exploitation pédagogique dans un autre contexte.
Très bien. Et si on revient sur l'espace physique, en quoi la place physique de l'enseignant dans la classe ou l'amphi et l'organisation donc de l'espace physique reflète la posture de l'apprenant et son rapport à l'apprentissage?
Il ne vous a pas échappé que lorsque vous rentrez dans un local, par exemple ici nous sommes dans un lieu qui est défini par ce que l'on appelle les affordances, c'est-à-dire par ce qui nous donne à décoder des possibles, définit des postures. Lorsque nous arrivons dans un amphithéâtre, nous sommes tous rentrés au moins une fois dans notre vie dans un amphithéâtre ou dans un cinéma ou dans une église, puisque la configuration, somme toute, sont les mêmes, il y a quelqu'un qui est à l'avant, qui est la personne qui va, comment dire, officier, que ce soit un enseignant, que ce soit un acteur, que ce soit un ecclésiastique et autres. Et puis il y a ceux qui sont organisés dans l'espace selon des rangées autobus, c'est-à-dire qui, selon leur positionnement par rapport à celui qui officie, vont avoir une attention plus ou moins particulière. Et j'aime toujours prendre cet exemple, pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo, d'observer les amphithéâtres et notamment les écritures qu'il y a sur les surfaces horizontales dans les amphithéâtres. Et on remarque aisément que la densité d'écriture sur ces planches, en quelque sorte, augmente au fur et à mesure que l'on va vers l'arrière de l'amphithéâtre et que l'on va sur les côtés. Derrière ça, c'est quoi? Ça marque bien le fait que selon le positionnement que nous avons dans un espace, nous n'avons pas la même expérience et nous n'avons pas le même rapport à l'autre. Et ça introduit de fait une exclusion et une iniquité expérientielle qui peut, se traduire aussi d'un point de vue très physiologique par la difficulté à lire ce qui est affiché à l'écran si le dispositif technique ne réplique pas, par exemple, ce qui est sur l'écran. Et en conséquence, l'organisation spatiale va agir directement sur à la fois l'engagement cognitif, mais également l'engagement comportemental, mais aussi l'engagement socio-affectif. Parce que ne vivant pas une expérience positive, en quelque sorte, toute cette partie-là, toute cette dimension de l'apprentissage va être quelque peu absente.
On parle beaucoup des pédagogies nouvelles. Et effectivement, il y a une transformation des pratiques pédagogiques en général. Et cette transformation remet en cause, en fait, le modèle classique, on va dire, ce que tu as décrit, la classe en rang, silencieuse, des transmissions dans des amphithéâtres, des lectures en bibliothèque, etc. En quoi cela modifie le rapport à l'apprentissage? Donc les transformations, les nouvelles pédagogies et donc la réorganisation, en quoi cela modifie le rapport à l'apprentissage?
Ce qui est appelé ici pédagogie nouvelle, au fond, je pourrais peut-être formuler en disant des pédagogies actives, c'est-à-dire qui visent un changement de paradigme, c'est-à-dire le passage du paradigme magistral, magistro-centré, c'est-à-dire de celui qui sait, qui transmet à ceux qui ne savent pas encore, au paradigme apprentissage, c'est-à-dire de créer des situations qui vont être propices à l'engagement des étudiants, des étudiantes, des apprenants, dans des activités qui vont leur donner l'occasion à la fois de mobiliser ce qu'ils savent, de prendre conscience de ce qu'ils ne savent pas encore, pour développer les nouveaux savoirs et développer les compétences. Dans cette perspective-là, il est clair que, quand bien même on puisse faire de la pédagogie active dans les amphithéâtres, on pourra y revenir au besoin, la configuration spatiale va agir. La configuration spatiale va agir parce qu'elle va travailler notamment sur l'évolution de la relation symbolique de cette asymétrie entre le maître et celui qui ne sait pas encore. Or, aujourd'hui, lorsque l'on pense à un design spatial, on va penser à cela. On va se dire comment faire en sorte que tout à chacun puisse se sentir dans une forme d'égalité à autrui. Et également que des activités qui vont être proposées vont pouvoir trouver à travers la configuration, à travers le mobilier, tous les éléments qui vont venir soutenir, qui vont venir contenir, qui vont participer de l'engagement. Par exemple, le fait d'être debout, le fait de pouvoir se déplacer aisément, le fait de pouvoir discuter sans que, les autres membres du groupe soient gênés. Le fait de pouvoir aussi, dans des perspectives, de bimodalité, de pouvoir être en discussion, en échange avec des personnes qui sont à l'extérieur et qui sont présentes à travers un écran. Donc c'est également tout ce projet pédagogique qui doit être pensé avant de définir la configuration physique.
Et c'est là où on peut faire le lien avec la notion de l'affordance, des affordances dont tu as parlé tout à l'heure, le fait que en fait, l'organisation physique dit des choses, des possibilités d'action pour les apprenants.
Tout à fait. Je reprends cet exemple d'un amphithéâtre ou d'une bibliothèque. Lorsque nous entrons dans une bibliothèque, de manière quasi automatique, nous baissons le ton. Ce qui est aussi intéressant, c'est que selon le type d'activité que nous allons faire dans une bibliothèque, la durée que nous projetons de rester dans la bibliothèque, nous allons chercher tel ou tel endroit. Et c'est pour ça aussi que la mise en avant de la diversification, comment dire, des possibles dans un même lieu, est un élément qui va venir soutenir aussi les étudiants.
Qu'en est-il de l'enseignement supérieur plus précisément ? C'est-à-dire que on a parlé pédagogie nouvelle, on a des écoles Montessori, des écoles Freinet, donc on voit un peu comment les choses bougent parfois dans l'enseignement primaire, par exemple. Dans le contexte de l'enseignement supérieur, quelles modifications, comment les espaces d'apprentissage sont pensés en France, au Canada, ailleurs?
Alors, tout dépend si on parle de, comment dire, d'établissements nouveaux et d'établissements anciens. Il y a peu d'établissements nouveaux, mais il y en a quand même quelques-uns. Si on prend des établissements anciens, c'est-à-dire qui ont déjà un bâti, qui ont déjà des infrastructures, on voit deux grands cas de figure qui ne s'opposent pas, qui parfois cohabitent. Mais il y a un premier cas de figure qui est une forme de, comment dire, de reconfiguration localisée de certains lieux, c'est-à-dire où les établissements vont prendre et faire le choix de dire, voilà, nous allons développer une salle ou deux ou plusieurs salles de pédagogie active et tout le reste restant en quelque sorte dans son organisation, je veux dire, antérieure. Ceci est intéressant parce que ça permet de voir d'autres possibles et pose la limite aussi d'une forme de, comment dire, de spécifications de lieux dans lesquels il semblerait que ce soit les seuls lieux qui permettent de faire de la pédagogie dite active. L'idée, c'est plutôt, à mon sens, d'aller vers une mixité, une hybridation entre ces différents types de lieux. On n'a pas toujours besoin de locaux, je veux dire, avec des salles en îlot, etc. En plus, il faut bien entendu considérer les effectifs. Lorsque les effectifs sont de 200, 300, 400, il y a très très peu de locaux qui sont organisés en îlots. En ce qui concerne l'Université Laval, nous allons jusqu'à 140 personnes dans des salles en îlots. La moyenne, c'est autour d'une soixantaine de personnes, mais qui rejoint aussi nos effectifs des groupes. Donc il y a aussi cet alignement à opérer entre les tailles des groupes, entre là où en sont rendus dans leur cheminement les étudiants et le type de pédagogie. C'est-à-dire, au-delà de l'alignement classique de Biggs et autres qui reconnaît les objectifs, les activités, etc., les évaluations, l'idée c'est aussi de considérer que l'espace est l'un des acteurs, comment dire, qui participent de la dynamique pédagogique.
Et concernant la formation professionnelle des adultes, est-ce que il y a des évolutions par rapport aux espaces d'apprentissage dans ce champ spécifique? Y a-t-il par exemple des études qui montrent des spécificités entre organisation spatiale et professionnalisation des apprenants, des adultes? Est-ce qu'il y a un lien qui a été déjà fait?
À ma connaissance, il n'y a pas de lien direct qui sont faits. Par contre, il y a des ajustements spatiaux, des configurations spatiales ad hoc qui sont mises en place dans deux directions. D'une part, dans la direction qui consiste à des mises en situation professionnelle. Bon, je pense aux simulateurs, mais pas qu'aux simulateurs, aux jumeaux numériques, à toute cette mobilisation d'objets techniques numériques qui participent de la mise en situation. Car ce que l'on sait, l'une des caractéristiques dans l'andragogie de la formation pour adultes, c'est cette nécessité de partir de l'expérience, de partir du background des participants, afin de à la fois déconstruire et reconstruire aussi tout un ensemble de savoirs et de compétences. Ensuite, il y a fort longtemps, les locaux qui sont dédiés à la formation continue ont d'autres configurations, notamment des configurations sous forme séminaire, sous forme des U enchâssés, qui ont pour vocation aussi de favoriser l'échange. Parce qu'on ne peut pas, quelque sorte faire la même proposition pédagogique à une personne qui a un certain nombre d'années d'expérience qu'à quelqu'un qui découvre. Parce qu'il va y avoir un rejet, et certains ayant parfois aussi eu un vécu un peu traumatique sur les bancs de l'école n'ont pas du tout le goût de retrouver cette configuration. Et ce que l'on cherche va être aussi l'engagement dans les activités, et pour ça il faut une configuration qui soit adaptée.
Quels sont les périmètres de chacun entre espace physique et espace virtuel, et comment ils s'articulent les uns, les espaces physiques, avec les espaces virtuels finalement?
C'est une question qui, pour moi, est vraiment une question d'actualité et à laquelle je répondrai en mobilisant la notion de présence. Au fond, ce que nous a appris la COVID, c'est que toute cette période, donc de manière différente selon les pays, parce que tous les pays n'ont pas réagi de la même manière, nous a appris qu'on pouvait avoir d'autres configurations. Et qu'à la fois, ces autres configurations nécessitaient aussi de prendre en compte un certain nombre de points de vigilance. Dès lors où l'espace physique, avec l'horloge qui gère leur attribution, qui gère leur occupation, lorsque ces deux éléments ne sont plus présents, il y a tout une dimension contenante de l'espace-temps qui n'est plus là. Donc, ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation du temps et de l'espace fait qu'il faut recréer des repères. Première chose. L'autre élément, c'est la question de se dire, mais au fond, apprendre, c'est quoi ? Apprendre, personne ne peut apprendre à la place de quelqu'un. Or, on ne peut pas apprendre sans l'autre. Et ça nous interroge sur quels sont les moments pour lesquels, et les actions, les choses pour lesquelles la présence est essentielle. De quel type de présence s'agit-il ? Et peut-être que l'une des pistes pour comprendre cette articulation entre ce qui se fait dans un espace académique formel, que ce soit dans un laboratoire, que ce soit dans un amphithéâtre, et ce qui peut se faire en dehors de ces espaces, peut-être que l'une des pistes de réflexion serait de se dire, mais au fond, quelle est la valeur qu'il y a à être coprésent, à être ensemble, à vivre cette expérience en commun? Et ceci, peut trouver différents éléments de réponse. Il peut y avoir une valeur qui est liée au fait qu'il y a un partage d'une expérience par rapport à des objets communs. Ça peut être, des objets, on étudie un objet en archéologie, il y a l'objet qui est là, qui porte sa symbolique, qui porte toute sa forme émotionnelle, donc qui crée une expérience. Ça peut être, dans une dissection aussi humaine où, le corps est là, même s'il y a des dissections qu'on peut faire autrement. Donc, qui participe aussi de cette approche expérientielle et de cette dimension corporelle et de cette corporéité aussi dans l'apprentissage. Par contre, il y a des activités qui sont des activités de lecture, qui sont des activités de réflexion, des activités, de distanciation par rapport à des processus d'apprentissage qui peuvent se faire pour partie à distance et à d'autres moments, selon également la dynamique de chaque apprenant. Pour certains, ce sera le matin, pour d'autres, ce sera le soir, tout dépendant également d'un besoin de conciliation et de leur propre contexte.
Est-ce que ça veut dire que l'apprenant doit être en autonomie pour qu'il puisse s'auto-organiser, ou est-ce que ça veut dire que le rôle de l'enseignant change et qu'il n'est plus transmetteur des informations ou des enseignements, mais plutôt accompagnateur pour que l'apprenant puisse se situer entre ces différents espaces physiques virtuels et trouver sa propre organisation qui sera bénéfique pour son apprentissage?
Par rapport à ce questionnement, je dirais que peut-être que nous gagnerions à penser une forme d'œcuménisme pédagogique, c'est-à-dire de ne pas opposer le magistral par rapport à d'autres modalités, et que parfois un cours qui est donné par une personne qui incarne aussi un contenu peut avoir autant, entre guillemets, d'efficience, voire d'efficacité, que la médiatisation d'activités qui vont être organisées, réalisées en autonomie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, par rapport à l'autonomie, bien sûr, on prône tous l'autonomie, etc. Et la COVID nous a montré l'importance d'être en capacité de se recréer des repères, de se prendre en charge, etc. Mais au-delà de l'autonomie, c'est le développement aussi de la capacité d'autorégulation et d'autodétermination de l'apprenant. Mais pour autant, encore faut-il l'accompagner dans le développement, à la fois dans le développement de ses capacités, de ses compétences, mais également de lui laisser suffisamment de degrés de liberté d'action pour que l'exercice de l'autonomie ait du sens. S'il n'y a aucun degré de liberté d'action, pourquoi prôner l'autonomie, puisque je ne peux pas l'exercer? Et le troisième élément, c'est peut-être de réfléchir, non pas en termes de lieu, non plus uniquement en termes d'espace, mais en termes de ce que j'appelle le territoire de l'apprendre. Lorsque on étudie, on observe, nous discutons avec des apprenants, quel que soit leur âge, à partir du supérieur, avant il y a un peu plus de contraintes, lorsqu'on questionne sur « mais où est-ce que vous apprenez, quoi et quand et avec qui ?», eh bien, on dessine à travers les réponses qui sont données leur territoire de l'apprendre. Le territoire de l'apprendre va être composé à la fois d'espace-temps académique, formel, d'espace-temps académique non formel, mais également tout un ensemble d'espace-temps non formels. Certaines études, par exemple, montrent que 86% du temps consacré à l'apprentissage se fait en dehors de l'institution. Donc, c'est quand même significatif. Et donc, ça veut bien dire que les étudiants apprennent ailleurs. Donc, l'idée peut être aussi, en tant que pédagogue, en tant qu'ingénieur, conseiller pédagogique, en tant que responsable de gouvernance, c'est de s'intéresser à cette dimension, comment dire, de cette approche globale de l'apprenant, et de se dire, mais au fond, quand il apprend, il est où? Et entre deux activités, il fait quoi? Est-ce qu'il est stocké, entre guillemets, à l'entrée d'un amphithéâtre en attendant que l'amphithéâtre se vide pour façon le remplir? Ou est-ce qu'il y a des espaces intermédiaires, les interstices spatiaux, dans lesquels ils peuvent s'installer et dans lesquels ils peuvent soit socialiser et aussi travailler? Et comment on peut développer cette approche spatiale, globale, au sein du monde académique.
Quel est le lien que nous pouvons faire entre les espaces d'apprentissage et les environnements personnels d'apprentissage de proximité, les EPAP? Alors, j'ai vu qu'en 2020, tu as écrit un article qui a été publié à la revue RITPU, intitulé « Des dispositifs aux environnements personnels d'apprentissage de proximité ». Proposition de formalisation d'un objet de recherche. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur cette notion de l'EPAP et son lien, s'il y en a, avec les espaces d'apprentissage?
Ça introduit, il y a trois notions là. La première notion, c'est celle de dispositif. Donc, la notion de dispositif, au sens pour qu'elle vient du terme, c'est quelque chose qui est, pour grande partie, externe au sujet apprenant. C'est-à-dire qui est animé par une intention des concepteurs, une intention qui peut être politique, étatique, financière, etc. La question de l'environnement, c'est que l'on part de l'expérience du sujet. Sujet qui est environné par un ensemble de ressources dans un contexte donné. L'idée, à travers cette notion d'environnement personnel d'apprentissage de proximité, c'est de raisonner, c'est de comprendre comment s'organise un apprenant en essayant de repérer sur un pas de temps qui peut être une journée, qui peut être une semaine, qui peut être une session, comment il articule des briques élémentaires. Ces briques élémentaires, au fond, ce sont des briques qui l'amènent à réaliser une activité. Et considérant que l'activité, elle est inscrite dans une temporalité. Par exemple, je vais suivre un cours. Ce cours, il va durer 2 heures. Il est dans un espace. Dans ce cas-ci, il est dans un amphithéâtre. Et il a une dimension sociale, c'est-à-dire c'est le collectif. Donc, j'ai comme une triangulation à travers ces trois pôles-là qui, en quelque sorte, organise mon activité. À côté de ça, je peux avoir une activité de révision. De révision, soit directement liée au cours, à autre chose, que je vais vouloir faire dans un autre lieu. Et au fond, on va identifier ces différentes entités. Et c'est lorsque l'on identifie ces différentes identités, en fait, nous nous rendons compte que l'apprenant actualise en fait des ressources qui sont parties de son environnement. Et c'est par cette actualisation du fait que, ah oui, je peux aller dans tel lieu, etc., etc., et bien que se constitue son environnement personnel d'apprentissage. Il est dit de proximité, parce qu'il est au plus proche de ce que l'apprenant 1 souhaite vivre, peut vivre et vit.
Très bien. Ma dernière question concerne la fin de la notice donc sur les espaces d'apprentissage qu'on trouve dans l'ouvrage. Ils ont cité les travaux de Lorca et Marché parce qu'ils soulèvent plusieurs questions. Alors, notamment celle de l'accompagnement à l'évolution des pratiques et des espaces d'apprentissage. Donc, il se questionne sur comment accompagner les enseignants dans la mutation des espaces, comment les engager dans ce changement. Et leur deuxième question, c'est comment concevoir finalement un espace d'apprentissage? Est-ce que nous devons plutôt parler d'une co-conception des espaces physiques et virtuels par les apprenants et les enseignants? Voilà, c'est les deux questionnements qu'on retrouve à la fin de la notice. Est-ce que tu as des préconisations à faire, des retours d'expérience, et où en sont les recherches sur ces questions?
Merci beaucoup pour cette dernière question. Le premier élément, déjà, je pense qu'il y a une éducation à faire chez les enseignants aux espaces. Et notamment, je veux dire, à écouter les espaces. Quand on rentre quelque part, l'espace nous dit quelque chose, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et ça, c'est un élément important. Et premier élément. Deuxième élément, donc, parlant d'espace, il s'agit davantage de lieux, mais de resituer chaque lieu à une échelle à la fois du pavillon du bâtiment et ensuite à l'échelle du campus. Car le vécu du quotidien d'un espace, ce qu'on appelle l'espace vécu, en fait est un déplacement des individus entre ces différents lieux. Et si on ne comprend pas ces déplacements tels qu'ils s'opèrent au quotidien, il devient difficile de dire « Ah tiens, dans tel endroit, je vais plutôt installer, entre guillemets, un tiers-lieu ou un espace non formel, au risque qu'il n'y aille jamais. » Donc, développer cette culture et cette approche spatiale avec ces trois niveaux me semble un élément important. Ensuite, par rapport aux autres dimensions de la question, eh bien, ce qui me semble important, c'est de penser son design pédagogique en fonction des espaces et de penser l'espace dans sa volumétrie. Très souvent, l'espace est vécu en deux dimensions, c'est-à-dire je me positionne quelque part, il y a des étudiants ailleurs et puis il y a des interactions qui s'opèrent. Mais plutôt de se poser des questions en partant de quelles sont mes intentions pédagogiques. Par exemple, j'ai une intention pédagogique qui est que je ne veux pas paraître le prof sachant. Ça va avoir une conséquence sur la présence ou non d'une estrade, sur le positionnement du bureau du prof dans cet espace. J'ai une autre intention pédagogique, par exemple, qui est de les engager d'un point de vue comportemental. Je veux qu'ils bougent, tout en faisant en sorte que ça demeure gérable. Je veux qu'ils puissent se lever. Je veux qu'ils puissent, par exemple, avoir une posture d'écriture debout, pour différentes raisons. Ça va avoir une conséquence. Je veux, par exemple, qu'ils puissent, d'un point de vue attention pédagogique, développer la collaboration. Donc, qui dit collaboration, dit objet commun. Donc, qu'est-ce qui va être commun? Je veux, par exemple, également, en termes d'attention pédagogique, sur une séquence d'une heure, deux heures, trois heures ou plus, être parfois dans un mode plus magistral. Je veux mettre en place des activités en groupe, mais aussi des moments individuels. Donc, comment, à partir de toutes ces intentions pédagogiques, je vais pouvoir traduire ces intentions dans l'organisation d'un lieu et dans la configuration du mobilier. Je veux, par exemple, à certains moments, qu'il y ait un expert externe qui puisse intervenir. Or, il ne viendra pas physiquement. Et je veux que sa présence soit à l'échelle 1-1, et pas sur un petit... parce que je veux qu'il soit vraiment présent, et je sais que c'est une personne qui par exemple, intervient debout, pour lequel le non-verbal est très, très important dans la compréhension de son message, bon, pas uniquement dans les cours en communication. Donc, c'est à partir de l'explicitation de tout ce qui est habituellement implicite que l'on va pouvoir penser à une traduction spatiale, je veux dire, de ses intentions pédagogiques.
Merci beaucoup, Didier, pour ces échanges très, très riches.
Merci beaucoup, Annie. Un plaisir.